Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on s'est quitté il y a un instant, parler de SpaceX, hein, cette entrée en bourse incroyable a priori, en plus de 1200, plus de 1300 milliards de dollars qui seraient ainsi récoltés par SpaceX. Alors dedans, on y met, voilà, il y a du X, voilà, il y a vraiment toute l'entreprise. Michel, on t'a pas entendu sur ce sujet-là.
Non mais Thomas l'a dit, hein, aujourd'hui, cette entreprise qui est en réalité un patchwork, regroupe à la fois de l'IA avec xAI depuis février dernier, regroupe évidemment un opérateur, mais un opérateur telco de nouvelle génération avec Starlink, et aussi évidemment des lanceurs.
Et donc je t'interromps à l'instant, vous avez vu ce week-end le lanceur qui revient, mais pile au millimètre près. Enfin,
il s'est planté dans le
C'est planté. Ah non, celui-là s'est planté. Il s'est planté. Oui, pardon.
Et Musk s'est amusé à retweeter celui qui se plante. Ouais. Mais pourquoi en fait c'est une entreprise toute particulière? Parce que en réalité, c'est probablement une imbrication d'éléments souverains pour les Américains. En fait, c'est une entreprise de souveraineté américaine qui est mise en bourse. Et c'est probablement la première fois dans l'histoire qu'on voit ce type de mouvement. Ça n'est pas une entreprise comme une autre. Avec autant de puissance, autant de briques qui sont fondamentales, l'espace, l'IA et les télécommunications. Ouais. C'est une brique qui va toucher l'économie, la défense. C'est une entreprise souveraine américaine qui rentre en bourse. Donc, au-delà du rêve de SpaceX, c'est absolument fondamental. En plus, ça a été une entreprise qui a été très largement financée aussi par l'État. Mm-hmm. Donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit ce type de mouvement.
J'avais exactement la même remarque. C'est-à-dire que, effectivement, ce serait pas Trump, ce serait un démocrate. Ça ressemble à ce qui s'est passé avec la Standard Oil. Mmh. Et on pourrait se demander si on ne devrait pas la nationaliser ou la citer tellement, ouais. Si elle délivre son business plan, sa puissance sur l'ensemble du monde deviendrait plus forte qu'un État. Enfin, ils ont l'économie d'un État, la valeur d'un État, et effectivement, une gouvernance qui est un patron comme dans Les Méchants de James Bond.
Et tu sais que Google a mis quelques milliards au départ dans SpaceX, ils vont s'en sortir avec plus de 100 milliards de valeur au sein de SpaceX. Voilà ce qu'il fallait en dire. Oui, je me suis complètement planté dans l'image. Je vois encore en plus l'image où ça retombe pile dans l'océan. Moi, j'étais resté sur celle qu'on était en train de diffuser. Mais c'est vrai que
Il fait de ses échecs des succès, Musk, c'est fou. C'est-à-dire que le fait de voir une fusée se planter, d'abord, c'est pas que ça l'amuse, c'est qui prouve au monde que l'échec fait partie de son processus et que c'est qu'une étape avant le succès.
Non, puis moi j'ai un exemple là-dessus que l'on m'avait raconté. Quand les lanceurs revenaient, on disait qu'est-ce qui est compliqué pour les mettre en place. Il y en a qui dit il y a un truc qui serait simple à mettre remettre en route pour qu'elle soit opérationnelle plus vite. Il y a au moins une chose, ça doit être assez simple de le faire, c'est la peinture. On est obligé de repeindre le truc. Et il a dit très bien, vous me trouvez une Et les types ont réussi à trouver une peinture avec des micros, des nanoparticules, des microbilles et tout ça. Ils sont creusés la tête et du coup, ils la repeignent en un seul coup de pinceau. C'est bien plus complexe, mais beaucoup plus rapidement.
Ce qui est amusant, c'est que quand j'étais chez Google, le rêve de Google X, c'était de faire ça. Et ils ont pas.
C'est vrai que Google X était l'entité.
Ils voulaient faire ça. Et ils n'y sont pas arrivés. On pourrait réfléchir à comment il y en a un qui y arrive, l'autre pas. Ce qu'il fallait être totalement non consensuel comme Elon Musk. Le soutien et le financement massif du complexe militaro-industriel américain pour ce truc-là, il ne faut pas oublier qu'au départ, le pari de SpaceX, c'était de dire on va, un peu dans une logique un peu réganienne, on va laisser le secteur privé faire mieux que la NASA pour mettre des. Mm-hmm. Et la NASA a accepté de financer quelque chose qui sortait du modèle. Peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à ça avec
Il sort du modèle et c'est quelqu'un aussi, parce que j'en ai parlé l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui a créé une start-up il y a quelques années avec l'un des développeurs, l'un de ceux qui ont conçu le logiciel du lanceur qui revient. Et ce que lui avait expliqué cette personne-là avec qui il avait travaillé longuement, c'est que ce que sait faire aussi Elon Musk, c'est qu'il s'entoure des bonnes personnes au bon moment. Et nous, alors par fidélité, par différents... Musk, il n'a plus besoin de quelqu'un, parce qu'il l'a aidé pour ce moment-là. Il dit, lui, il était très bien pour mettre en place ma logistique, tout ça. Je n'ai plus besoin de lui, merci, au revoir. Et il va passer un autre qui va peut-être tenir 18 mois, parce qu'il en aura besoin pendant 18 mois. Ils disent que ça, c'est aussi l'un de ses secrets. On passe à un autre sujet, monsieur, j'aimerais bien qu'on parle à la toute fin de la note de Deutsch, mais on revient en France. Nvidia, Nvidia, c'est Jensen Huang, qui croyait moyennement au quantique, il a pas mal rétropédalé dans le domaine. Et bien Nvidia a investi dans des sociétés américaines de quantique, et là ils viennent d'annoncer, alors on ne sait pas encore on ne connaît pas le montant, mais ils ont annoncé un investissement dans la start-up quantique que l'on connaît bien, Alice et Bob, qui est d'ailleurs à quelques pas d'ici du siège de BFM Business. Alors ils travaillent sur des ordinateurs qubits avec supraconducteurs pour éviter, vous savez, il y a le zéro défaut, qu'il n'y ait pas d'erreur. Ils travaillent dessus toute la bande de Théo Perraudin. Et alors ils ont déjà travaillé ensemble, ils avaient déjà travaillé sur CUDA-Q, qui est le système d'exploitation. Mais en tout cas, premier investissement de Nvidia sur le quantique en Europe. Thomas,
sur le quantique, on voit bien que Nvidia, elle est tellement leader dans son domaine qu'il est en train de se faire challenger sur la partie communitisée, comme on en discutait, des GPU qui va être liée au calcul et pas au graphique, que maintenant ils ont besoin de miser sur la technologie d'après. Et donc, comme n'importe quel investisseur avisé, il hedge, comme on dit, c'est pari. Et donc, il y a une vingtaine de boîtes crédibles, dont une dizaine, 5 à 10 en France, qui sont sur les mêmes sujets, avec différentes approches, très différentes.
Oui, faut bien le dire, il n'y a pas qu'une seule approche pour le quantique.
Sur le quantique, il n'y a pas un
Pascal
chemin.
Pascal qui prépare d'ailleurs son entrée en bourse. Il y a Candela,
Donc, grosso modo, on sait que dans le semi-conducteur, on sait dont fait partie Nvidia, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. On voit déjà des résultats. On ne sait pas combien de temps ça va prendre avant que ça soit. Mais quand je suis une boîte aussi grosse que Nvidia, mettre 50 millions, 100 millions pour avoir une chance d'avoir un peu le côté comme Google, Elon Musk, pourquoi pas? On est exactement dans ce genre de truc. C'est bien pour une start-up française parce que c'est une reconnaissance. Il y a le hardware et puis après il y a le logiciel. On voit que dans le quantique se développe aussi vite le logiciel qui permet d'émuler les ordinateurs quantiques, même s'ils n'existent pas. Or, la partie logicielle, tu parlais tout à l'heure de CUDA, etc., la partie stack logicielle de Nvidia dans la valeur ajoutée, dans son monopole quasiment fait partie de sa barrière à l'entrée. Et donc, je pense qu'il joue à la fois sur la possibilité du hardware, la possibilité d'intégrer ça dans ses outils.
Et puis, on rappelle un peu les trois grands domaines sur lesquels va être le quantique. La première, le chiffrement. On parle souvent du chiffrement post-quantique, pour un chiffrement encore plus fort sur toutes nos données, sur toute cette partie sécurité. La partie optimisation. Nous, pour reparler de CMACGM, ils ont investi de l'argent chez Pascal pour travailler sur comment on optimise les trajectoires des bateaux, justement. Et puis la dernière partie, c'est la simulation. Tout un tas de simulations autour des médicaments, autour de tout un tas d'expériences scientifiques. Michel, comment tu vois ça? Enfin, évidemment, plutôt d'un bon œil, je pense, de Nvidia.
C'est une très très bonne nouvelle pour l'écosystème français quantique. On a la chance d'avoir quand même un écosystème sur cette technologie qui est florissant. Il faut dire cocorico quand on a ce type d'annonce, c'est une très bonne chose. Et pour une fois, on n'a pas de problème de régulation là, je crois, sur le quantique pour l'instant.
Non.
Pour l'instant, on peut avancer sereinement. Je sais pas quel est le montant.
Il n'a pas été dévoilé.
Écoute, à vérifier. Dans le cadre de l'extension de la série B de 100 millions d'euros, donc a priori, ce serait une série B de l'ordre de 100 millions d'euros. Le ticket est tout petit pour Nvidia. Oui. C'est rien du tout. Ils ont l'habitude de mettre des milliards d'investissements. Donc là, c'est pas grand-chose. Ils achètent un peu de futur. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'écosystème français, pour Pascal, pour Candela, pour Alice et Bob, c'est une vraie chance. On a l'opportunité de créer une industrie du futur. Ici, il faut pas la rater. Il faut aider ces boîtes, il faut les accompagner, il faut leur laisser du champ, il faut leur laisser le plus de liberté possible. Il faut surtout pas leur interdire, à mon avis, d'avoir des investisseurs étrangers. C'est très important qu'on ait aussi du cash qui arrive dans ces boîtes-là.
Mistral, enfin, je reviens sur cette commission parlementaire, mais clairement, à un moment, il y a un député qui dit « Mais comment ça se fait, tous investisseurs sont américains et tout ça ?»
Non.
Arthur Ben, je lui dis « Vous savez, quand je suis allé chercher de l'argent, qui m'a répondu, oui. c'est les Américains. »
D'abord, hein, tous leurs investisseurs ne sont pas américains.
Non, mais il a dit « Voilà, quand vous allez chercher de l'argent, les Américains, ils étaient là. »
Mais il faut pas bouder le fait d'être désirable. Au contraire. Plus on sera désirable, plus on aura des investissements étrangers, mieux ce sera pour la France et plus on attirera encore des investissements. C'est une erreur.
Toujours, et on ça a été, dans les commissions d'enquête parlementaire, ça a été assez bien expliqué, il y a une différence entre qui sont les investisseurs et qui sont les dirigeants et quelle est la nationalité d'entreprise. La plupart des boîtes cotées du CAC 40 sont détenues majoritairement par des capitaux étrangers. Mm-hmm. Mais on les considère comme
des fonds de pension, des gens comme ça.
Et donc, quelque part, c'est vrai qu'on a une sorte de mélange des genres sur ces choses-là. Ce qui est très important, c'est de garder la souveraineté, de faire en sorte que ce n'est pas parce qu'on est actionnaire qu'on a le droit d'avoir accès à tous les secrets. C'est pas mal. Donc, je pense que c'est très, très bien. Sur le quantique, il y a 1,5 milliard de plans de l'État.
Le plan d'Emmanuel Macron
voilà.
qui a annoncé.
Donc il y a de l'argent. Alors, mais 1,5 milliard, on regarde des 1 000 milliards ou 2 000 milliards, c'est une goutte, etc. Mais c'est encore une technologie qui n'est pas si chère à développer parce qu'on est dans les phases malheureusement ingrates de la R&D. Et donc il faut juste faire attention.
Et puis il y a plusieurs voies qui sont exploitées, voilà, on le répète.
Donc en fait, par rapport à ce que tu disais, il y a aussi une quatrième zone de quantique qui sont les capteurs quantiques.
Oui, les capteurs.
Et les capteurs quantiques, c'est probablement la partie qui va donner ses fruits les plus rapidement possible parce qu'on en a besoin dès aujourd'hui. On a déjà des preuves de l'efficacité. Les ordinateurs quantiques restent encore de la science-fiction. Au sens industriel du terme, mais on voit que ça avance.
C'est très compliqué, hein. C'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de l'informatique, c'est de l'électronique.
Enfin, oui, mais je voudrais reboucler sur la stratégie chinoise qu'on pourrait éventuellement appliquer sur ce sujet du quantique. Les Chinois, quand ils ont décidé de devenir leader en robotique, ils n'ont pas du tout misé sur un acteur, comme nous on a pu le faire sur l'IA. Ils ont une logique très darwinienne, où ils investissent massivement, peut-être des petits tickets au départ sur plein d'acteurs, et au bout de quelques mois, eh bien, les acteurs qui n'arrivent pas, qui n'aboutissent pas à un résultat, meurent naturellement et remettent un ticket sur ceux qui, et sur ceux qui fonctionnent. Et de cette manière, ils ont réussi à créer un écosystème, je crois, de 150 à 200 acteurs sur la robotique humanoïde en l'espace de quelques années à Shenzhen, et c'est un véritable succès. On pourrait faire la même chose, c'est-à-dire pouvoir investir, ne pas se focaliser sur deux ou trois acteurs, mais ouvrir l'écosystème et jouer la concurrence.
Alors, il y a moins d'acteurs dans le quantique qu'il peut y avoir dans le robot, c'est ce qui se passe.
À peu près une trentaine dans le quantique, mais par contre, les fonds qui sont dédiés au quantique restent assez faibles. Oui. C'est un effort qui est largement national, pas assez au niveau européen. Et on a quand même, c'est le rapport Draghi, on a quand même un vrai problème pour amener de l'épargne européenne. Oui. L'épargne européenne, on se trompe, elle va aussi beaucoup investir dans Nvidia, parce que c'est banco.
C'est plusieurs dizaines, j'allais dire.
Si on investissait early sur des boîtes qui ont beaucoup de potentiel, on aurait beaucoup plus
alors,
de gains
à terme.
Alors,
parce que quand on discute avec les investisseurs, on peut aller jusqu'au bout de cette conversation que j'ai eue malheureusement assez souvent. Aujourd'hui, si on regarde la rentabilité du VC, donc le early, elle est très mauvaise, voire mauvaise. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on ne le fait pas parce que l'histoire ne nous a jamais donné raison dans le domaine. Donc, en fait, on n'arrive pas faire en sorte qu'il y ait des Nvidia, des boîtes qui n'existaient pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans, comme OpenAI, et qui deviennent. On ne sait pas en Europe créer ce genre de boîtes. Et donc, en fait, comme on ne sait pas les créer, l'historique, c'est que les gens regardent l'histoire, voient que ça n'est jamais arrivé, et donc ne pensent pas qu'ils peuvent gagner au loto. Et donc, ils n'achètent pas de billets de loto.
Eh bien, justement, parlons d'histoire. Ce sera notre dernier sujet ce soir. La R5, qui est sortie, qui est plutôt un succès, je crois, pour Renault, la R5 électrique, bien entendu. C'est la mythique Citroën de chevaux qui va être relancée en version 100% électrique. Ça a été annoncé par le patron du groupe Stellantis, la Deux-Deux électrique, alors qui coûtera quand même aux entours 15 000 euros, enfin entre 12 et 15 000 euros. Mais enfin, ça vient concurrencer la Twingo de chez Renault. Ça va concurrencer, parce qu'évidemment, les Chinois sont très présents, la BYD, la Dolphin de chez BYD. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est sympa. Ouais. C'est sympa d'imaginer qu'on aura une deux chevaux électrique.
On ne connaît pas encore son design, on a entendu.
Non, on ne connaît pas son design. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie automobile européenne est en train de souffrir, va continuer à souffrir, pour plein de raisons. Pour des raisons industrielles, mais fondamentalement...
C'est une perte de 20 milliards d'euros en 2025.
Bien sûr, hein. Bien sûr, face aux Chinois, c'est vraiment très dur. Mais en fait, fondamentalement, je pense qu'on se trompe d'époque. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai enjeu des acteurs chinois et des acteurs américains dans le monde de l'automobile, c'est quoi? C'est l'autonomie. Mm-hmm. C'est d'avoir, non pas des voitures, mais en réalité, des intelligences, des robots qui sont sur les routes. Et là, face à la stratégie de l'autonomie, nous, on a la stratégie de la nostalgie. Mm-hmm. Et ça, pour l'Europe, c'est encore une fois triste.
Quand j'ai eu cette nouvelle, parce que je rentre de Shenzhen, où on est le royaume de la voiture électrique autonome, j'ai pensé à l'industrie horlogère, en fait. Quand l'Apple Watch est arrivé, l'industrie suisse, qui était historiquement dominante sur ce marché, s'est retrouvée au regard des volumes de l'électronique complètement dépassée. Elle a su se réinventer sur un marché du luxe, semi-luxe, etc., de l'horlogerie traditionnelle, etc.
On joue le vintage.
Voilà, vintage. Voilà, quand on regarde ce qui s'est passé avec Mercedes au salon de l'automobile de Pékin, qu'est-ce qu'il montrait? Il montrait des vieilles Mercedes.
Et c'est exactement ça.
Et donc,
c'est
en fait,
ce que tu dis.
Il y a une idée marketing qui est presque malheureusement le prix du renoncement. C'est comme on ne peut plus être incarné la modernité, puisqu'on n'en a plus les moyens, on est obligé d'aller chercher ce qui reste accessible, et donc la marque garde la nostalgie. Et donc, le problème, c'est qu'il y a une contradiction stratégique, c'est-à-dire que la nostalgie, si je suis Rolls-Royce ou Ferrari, et que je suis sur des petits volumes avec des gros prix de vente,
et l'international,
c'est rentable. Mais la nostalgie sur la 2 chevaux, après avoir vendu à 10 000 euros, il faut en vendre beaucoup. Et la nostalgie, c'est pas sûr que ce soit un marché de masse. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a une question.
En plus, ça nous parle à nous, mais après les gens.
Voilà, il y a une question.
La R5 fait un carton quand même. Hein.
Ouais. Oui, mais.
Mais elle est, je ne sais pas dans quelle mesure elle n'est pas quand même beaucoup aussi aidée. Faudrait regarder les chiffres des subventions de l'électrique.
Mais moi, je reviens sur ce que tu dis, la stratégie. Hein. On disait souvent que les Chinois sont en train de passer. Nous, on est en train de réfléchir du thermique à l'électrique quand les Chinois étaient déjà, on le disait il y a 3-4 ans, étaient en train de penser de la voiture électrique à la voiture intelligente. Voilà, on était dans deux marchés complètement différents. Et moi, c'est ce que je regrette un peu quand je vois les patrons de l'automobile aujourd'hui, c'est qu'on est encore. Alors, ils ont un legacy, hein. Ils ont des usines encore, tout ça à préserver encore un peu comme ils le peuvent, mais je trouve qu'on a passé... C'est sympa, je suis d'accord avec toi, la stratégie de la nostalgie, très bien, mais je trouve que là, quand j'avais vu la nomination du nouveau patron de Stellantis, là, je me disais oui, c'est bien, c'est un gars qui connaît parfaitement le réseau de distribution, le monde de la voiture et tout ça, mais je ne sais pas s'il aurait fallu nommer avec lui quelqu'un qui a une vision, Elon Musk.
Pour discuter, parce que j'étais en Corée, comme tu l'as dit, donc en Corée, c'est un des endroits où ils ont réussi à maintenir un écosystème de fabricants mondialement contre les Chinois. Mm-hmm. Maintenant, on a plus que deux choix sur l'Europe. C'est soit accepter que le déclassement, on fera de la petite voiture légère qui est nostalgique, soit, et c'est un libéral qui te le dit, il va falloir qu'on augmente très fortement les droits de douane pour donner du temps à notre industrie de s'adapter. Aujourd'hui, sans droits de douane, tous ces produits sont subscale et pas au niveau si on peut tester du BYD vendu en Chine à Shenzhen aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas laisser les Européens les essayer parce que après, ils ne voudront plus racheter du Peugeot.
Eh bien, messieurs, rendez-vous en octobre, en tout cas, pour découvrir cette Dodge électrique. On y sera certainement avec Tech & Co, parce qu'on est passionnés aussi de ces voitures électriques, ces voitures intelligentes. Mais on leur retrouvera. Merci à tous les deux, tous les trois. On salue Augustin Seyer, cofondateur d'OVNI, un détour ici entre deux vols entre les États-Unis ici pour venir sur ce plateau de Tech & Co. Thomas Serval, CEO de Barracoda, et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Messieurs, à très bientôt.